présente donc Hervé Le Trotte. Je suis climatologue, je suis bordelais d'origine, ce qui est une occasion un petit peu supplémentaire de venir ici. Donc, je n'ai pas l'habitude de parler sans le support, sans un support visuel, mais comme c'est podcasté, je vais essayer de présenter sans diagramme, sans tous les artifices que les scientifiques utilisent d'habitude pour étayer leur discours, le problème du changement climatique. Et peut-être qu'une des manières de le présenter justement sans rentrer tout de suite dans des chiffres ou dans des diagrammes, c'est de parler un peu de la manière dont ce problème s'est développé. Et puis c'est un peu ce que j'essaie de faire dans mon livre, c'est de donner un peu l'historique de ce problème, qui est un problème qui s'est développé essentiellement depuis la Deuxième Guerre mondiale. À deux niveaux d'ailleurs, au niveau du problème lui-même, c'est-à-dire le problème climatique, le problème de l'action de l'homme sur le climat, et puis le problème de la science qui permet d'en prendre conscience, qui a été complètement renouvelé après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, se poser le problème de la planète, de comment le climat évolue, comment il change, c'est un problème plus ancien, qui remonte essentiellement au XIXe siècle. Jusqu'au XIXe siècle, on était dans une idée de planète toujours la même. Il n'y a pas d'histoire du climat. Peut-être la seule histoire qui était répertoriée, c'était celle de Moïse et du déluge dans la Bible. Autrement, la planète vivait une vie qui paraissait éternelle, sans changement. Et puis au XIXe siècle, les gens se sont rendus compte, en regardant les moraines associées aux grands glaciers dans les Alpes, que le domaine d'extension de ces moraines, donc qui marque la fin des glaciers, avait été beaucoup plus grand dans le passé. Et on a fait l'hypothèse qu'il y avait eu des glaciations sur l'Europe et puis sur les États-Unis. On s'est rendu compte qu'on trouvait partout ces moraines-là. Et donc que le climat avait pu changer de manière importante. Alors c'est une idée qui a été combattue au début justement par les gens qui voyaient dans la Bible la mémoire de ce qui avait pu se produire dans le passé à long terme. Mais tout au long du XIXe siècle, bon, les idées sur le fait que le climat pouvait changer ont progressé, se sont développées, et on a reconnu qu'il y avait toute une époque quaternaire avec cette alternance de glaciers qui vont et viennent. Et on a associé très vite à ça des théories sur comment ça pouvait changer. Et la théorie qui reste maintenant en fait en vigueur comme étant la théorie dominante, c'était celle de Milankovitch dans les années 1920, un savant serbe qui a fait des calculs de changement de l'insolation dans les hautes latitudes à partir de paramètres climatiques orbitaux et qui a montré que le climat pouvait changer sous des causes astronomiques. Alors il y a eu des prédécesseurs, mais c'est essentiellement lui qui a formalisé cette idée-là. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait quelques idées quand même donc sur la manière dont le climat fonctionnait. Il y a aussi toute une étude de la thermodynamique de la planète Terre, c'est-à-dire que la planète reçoit du rayonnement solaire, donc sa température s'établit comme un équilibre entre ce rayonnement solaire qu'elle reçoit et puis un rayonnement qu'elle émet, qui a été imaginé, découvert par Joseph Fourier, qui est un savant français aussi du XIXe siècle, qui appelait ça la chaleur obscure. Alors maintenant, on appelle ça le rayonnement infrarouge, c'est une chaleur qu'on ne voit pas et qui équilibre le rayonnement solaire. Et cette chaleur obscure, on s'est rendu compte dès le XIXe siècle qu'elle était freinée dans son mouvement vers l'espace par des gaz à effet de serre qui ont été découverts vers la fin du XIXe siècle et qui empêchent la planète de se refroidir librement. Donc cet équilibre entre rayonnement solaire éventuellement modulé par des phénomènes astronomiques et puis effet de serre qui empêche cette chaleur accumulée par la Terre de s'échapper librement et qui est responsable du fait que la Terre est beaucoup plus chaude que sans le gaz à effet de serre. Bien, ça, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années, dès la fin du XIXe siècle. Et au début du XXe siècle, il y a un savant qui s'appelait Arrhenius qui a le premier fait l'hypothèse que si ces gaz à effet de serre augmentaient, on pourrait avoir un climat plus chaud. Donc il y a de longs antécédents. Mais les choses ont changé brutalement à partir des années 50 parce que on a pris conscience, d'une part, de ce que l'homme pouvait agir lui-même sur le climat. Et c'est une idée qui était restée un petit peu limitée à ces travaux d'Arrhenius dont je viens de parler, mais qui était quand même très peu présente avant. Et puis surtout, on a pu le constater, on a pu commencer à essayer d'en mesurer les effets avec une science qui s'est développée de manière considérable à cette époque-là. Alors, peut-être quelques chiffres permettent de montrer la rupture qu'il y a eu juste après la Deuxième Guerre mondiale. Moi je suis né en 1956, les émissions de CO2 dans l'atmosphère étaient à l'époque de 1 à 2 milliards de tonnes de carbone par an. C'est l'unité qu'on prend. En fin de 20e siècle, donc moins de 50 ans plus tard, on était à 6 ou 7 milliards de tonnes de carbone par an. Et 2009, on était à 8,5, et à ça, il faut rajouter la part de la déforestation qui fait qu'on était à 10. Donc, ces émissions de CO2 dans l'atmosphère ont été considérables. Et elles sont considérables parce que les gaz à effet de serre, qui jouent un rôle considérable, en fait, ce qu'on appelle gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais qui a un cycle très rapide que l'homme ne peut pas modifier. C'est une quinzaine de jours pour que toute la vapeur d'eau de l'atmosphère soit recyclée. C'est le CO2 qui, lui, reste une centaine d'années dans l'atmosphère, et c'est le problème principal auquel on est confronté, le dioxyde de carbone, donc c'est le méthane, c'est le protoxyde d'azote, c'est des fréons. Tout ça, ça fait moins d'1% de la masse atmosphérique. Donc c'est une toute petite quantité de gaz, et cette toute petite quantité de gaz, l'homme est capable de la modifier. En tout cas pour les gaz qui restent longtemps, parce qu'on les injecte dans l'atmosphère, ils s'y stockent, et on est capable de modifier la composition atmosphérique de ces gaz. Et ces gaz sont responsables du fait que la planète est habitable. C'est-à-dire que sans ces gaz, on aurait une température de moins 18 degrés Celsius. Donc on sait que c'est quelque chose d'important que l'on fait en touchant à la composition atmosphérique, à la teneur atmosphérique de ces gaz. Donc ça, cette prise de conscience, elle a eu lieu tout au long des années 60-70. On a commencé à mesurer le CO2 de manière précise en 1957. 1957, c'est ce qu'on appelle l'année géophysique internationale. C'est la première fois que les gens se mettent en commun des moyens de mesure à l'échelle de la planète. Alors il y a eu Spoutnik, le premier satellite russe, mais il y a aussi les premiers hivernages avec les premières stations antarctiques, et des mesures d'ozone, enfin tout un ensemble de mesures à l'échelle de la planète. Et au sommet du volcan du Mauna Loa, qui est le plus haut volcan de l'île d'Hawaï, les gens ont commencé à faire des mesures régulières du CO2. Alors pourquoi là ? CO2, je dis, reste 100 ans, il se mélange bien dans l'atmosphère. Et donc si on mesure sa valeur dans un endroit qui est un petit peu à l'écart des forêts, des villes, des perturbations locales, on peut avoir une mesure qui est du sens pour l'ensemble de la planète. Et maintenant on a un réseau, on le mesure partout, mais à l'époque c'est cette mesure-là qui a permis de regarder l'évolution du CO2 dans l'atmosphère. Et on s'est rendu compte en 10-20 ans que le CO2 augmentait. Ce qui était quelque chose de pas évident à l'époque. On peut imaginer le CO2 qu'on injecte dans l'atmosphère, que la végétation, que les océans, que tout ce grand système climatique soit capable de le reprendre. Et on s'est rendu compte à cette époque-là que c'était pas le cas. Et qu'en fait, il y avait une part, la moitié à peu près du CO2 qu'on injectait dans l'atmosphère qui y restait, et puis qui restait longtemps, qui restait une centaine d'années. Donc c'est le diagnostic principal est venu à ce moment-là. Et ce diagnostic donc coïncide avec cette augmentation des activités industrielles considérables qui fait qu'on a aussi émis beaucoup plus de gaz dans l'atmosphère. Alors en termes de prise de conscience, il y a eu aussi une chronologie un petit peu particulière parce que si on réfléchit à ce que ça veut dire, on commence à émettre des gaz à effet de serre qu'on stocke dans l'atmosphère à partir des années 50. Il faut un peu de temps pour qu'ils stockent dans l'atmosphère. Typiquement, il faut 20-30 ans pour qu'ils s'accumulent dans l'atmosphère. Et puis ensuite, c'est un peu comme un système, comme de mettre le feu sous une casserole. L'eau met du temps à chauffer, elle met plusieurs décennies à chauffer les 50 mètres d'océan qui sont vraiment en interaction avec l'atmosphère. Donc en fait, il faut attendre les années 90 pour imaginer qu'on puisse avoir un changement réellement effectif du climat, donc quelque chose qu'on puisse mesurer, qu'on puisse discerner par rapport aux fluctuations naturelles du climat. Et ça veut dire que toute la phase initiale, on commençait à se poser des problèmes dans les années 60-70, c'était une phase où il n'y a pas de mesure possible, on ne peut pas imaginer, voir déjà des conséquences de l'augmentation des gaz à effet de serre, c'est venu après. Donc ça a reposé sur des études physiques, théoriques. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent très largement ignoré. Toute la phase initiale d'alerte sur ces problèmes-là. Et le premier grand moment d'alerte sur ces changements climatiques, ça a été le sommet de la Terre à Rio en 92. À Rio en 92, il n'y avait pas moyen d'observer encore des changements avec la petite chronologie que je viens de faire. La seule manière de les anticiper, c'était justement de faire de les comprendre physiquement, de comprendre quels étaient les mécanismes au travers desquels les gaz à effet de serre qu'on injecte dans l'atmosphère pouvaient impacter le système climatique. Alors ça, c'est difficile parce que ça pose un problème supplémentaire qui est qu'est-ce qu'on peut savoir du futur à la question qu'on nous pose toujours, c'est-à-dire, à partir de 5 jours, 6 jours, là, vous ne savez plus faire de prévisions météo. Comment est-ce qu'on peut imaginer faire des calculs qui permettent justement de comprendre comment le climat va évoluer à plus long terme? Alors, la réponse, c'est qu'il existe deux formes d'organisation qui peuvent donner lieu à prévisions ou prédictions dans le système climatique. Vous avez tout ce qui est fluctuations immédiates. Et c'est ce qu'on cherche à prévoir quand on prévoit le temps. On sait que ça, c'est quelque chose qui est très fluctuant, d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. Bon, et la prévision est de fait limitée à quelques jours. Et puis, vous avez quand même aussi une organisation du climat à l'échelle de la planète. Ce qu'on appelle climat, c'est des statistiques sur 30 ans, à peu près. Et ces statistiques sur 30 ans, on voit qu'elles ne sont pas au hasard. On a un climat méditerranéen, un climat océanique, un climat continental. On sait qu'ils sont différents. On sait aussi qu'il y a des zones qui favorisent des événements rares, des tempêtes, d'autres moins. Donc tout ça, ça fait partie du climat. Et le climat, ça a un impact très fort sur la manière dont on construit nos maisons, dont on construit nos réseaux de routes, dont on détermine l'usage des sols, ce qui est utilisable ou ce qui est inondable et qu'on veut pas utiliser. Donc tout ça, c'est le climat qui détermine ça. Et ce climat, donc, il réagit à des choses organisées. On sait où il y a des déserts, on sait où il y a des zones où il pleut souvent. Et donc la question qui s'est posée dans un premier temps, c'était est-ce qu'on peut rendre compte de ça par des modèles, par des équations? Alors c'est très difficile à imaginer pour des non-physiciens ou des... Mais ce qui a été fait, finalement, c'est d'essayer de se dire... On a des équations, alors ces équations de la physique qui sont venues pour la plupart au 19e siècle, sauf pour les aspects de rayonnement un petit peu après. Est-ce qu'on peut mettre ça dans des ordinateurs dès qu'on en a eu, et puis essayer de reconstruire une planète qui ressemble à la planète réelle par les équations? Dans la mesure où tout ça est organisé, les équations doivent rendre compte de cette organisation. Et la réponse est venue progressivement dans les années 60, 70. Oui, on est capable. Et donc, comment on est capable de faire ça? On est capable aussi de savoir comment, au moins dans une partie, les choses peuvent changer si on met dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Et tous ces calculs ont commencé dans les années 70. Les premières modélisations de ce que pourrait être le changement climatique en réponse aux gaz à effet de serre, c'était aux États-Unis dans les années 60, dans les années 70. Le premier rapport sur l'impact possible des gaz à effet de serre, c'est un rapport fait par un scientifique américain extrêmement connu, qui est mort d'un cancer depuis, qui s'appelait Jules Charney, pour l'Académie des sciences américaines, en 79. Donc tout ça est venu à cette époque-là. Non, encore une fois, en aveugle, avant qu'on puisse anticiper quoi que ce soit par l'observation. Et le moment où tout ça est devenu beaucoup plus médiatique, c'était un peu plus tard, justement, parce qu'on a pu commencer à observer des choses dans les années 80-90. Là, on a vu de premiers effets et la... l'attention portée à ces problèmes a changé de nature. Mais dans les années, moi j'ai commencé à m'intéresser à ça en 86, parce que j'avais écouté un collègue anglais qui a des mécanismes de projets européens qui font que c'était intéressant de travailler entre différents pays d'Europe. Et à l'époque, c'était un sujet très confidentiel. Même pour essayer de convaincre dans mon laboratoire qu'il y avait un intérêt à s'occuper de ces problèmes-là, c'était un petit peu difficile. Et c'est venu, justement, qu'on a pu constater, début des années 90, qu'on voyait un réchauffement qui ressemblait à ce que prévoyaient les modèles. Alors, que prévoient les modèles? Les modèles disent que pour un doublement du gaz carbonique, par exemple, quelque chose qu'on pouvait imaginer dès l'époque dont je parle, vers le milieu de ce siècle, ou la fin de ce siècle, alors, un réchauffement de quelques degrés. Et quelques degrés, donc c'est ce que disaient les modèles. Quelques degrés, c'est beaucoup. La dernière fois que la planète s'est réchauffée de quelques degrés, c'était en fait de 5 degrés, c'était au moment de la dernière grande déglaciation qui a eu lieu il y a 15 000 ans à peu près. Et puis depuis 10 000 ans, on est dans un état glaciaire qui est relativement stable, avec des fluctuations climatiques qui sont des fluctuations... de quelques qui ont eu un impact. On parle de l'optimum médiéval, on parle du petit âge de glace au XVIIe, XVIIIe siècle. Toutes ces fluctuations sont des fluctuations beaucoup plus petites, de quelques dixièmes de degrés. Donc imaginer un réchauffement de quelques degrés, comme l'indiquaient les modèles, c'est quelque chose qui était important par rapport à ce qu'on connaît dans un passé récent, dans les derniers milliers d'années. Les autres indications, des indications géographiques, réchauffement plus fort dans les régions de haute latitude, surtout en Arctique, réchauffement plus fort sur les continents, plus de précipitations à l'équateur, les zones désertiques renforcées en termes de sécheresse, les zones semi-arides, plus de pluie haute latitude. Donc des indications qui progressivement commençaient à apparaître dans les relevés climatique. Et c'est pas l'affaire d'une journée, c'est l'affaire de décennies d'observation. Par essence, on n'est pas capable de caractériser le climat en fonction des fluctuations d'une année sur l'autre. Mais bon, les choses ont commencé à se modifier à partir des années 60, 70, 80. On est en 2010, on commence à avoir un certain recul. Et c'est vrai que ce qu'on observe, c'est quelque chose qui ressemble à ce qui avait été prévu à l'avance par les modèles, qui se superpose à toute forme, toutes sortes de variabilités naturelles. On sait que le climat, il fluctue naturellement. Il y a les fluctuations du soleil, il y a les fluctuations liées aux volcans, il y a le système climatique lui-même avec les océans, l'atmosphère, tout ça, ça bouge. Donc il y a des fluctuations naturelles. Mais superposé à ça, ben, il y a en plus le rôle de l'activité humaine qu'on commence à discerner, qu'on commence juste à discerner. Et c'est pas facile, c'est du travail... mathématiques, statistiques, qui demandent beaucoup, beaucoup de moyens. Mais on voit maintenant ces changements qui sont le début de quelque chose qui est appelé à augmenter dans les années qui viennent. Et je crois que ça, c'est le point le plus important, c'est que le changement climatique... La question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que vous croyez que le changement climatique est d'origine humaine ? Alors, c'est une question ennuyeuse parce qu'en fait, le changement dont on parle, pour nous, c'est surtout un changement futur. Et la question suppose qu'en fait, on voit déjà maintenant les traces de ce changement, les effets de ce changement, alors qu'en fait, les premiers symptômes qu'on arrive à déchiffrer avec un regard scientifique et surtout des méthodes scientifiques assez précises, sont des symptômes. Ce qui est appelé à se produire, c'est essentiellement des choses qu'on verra dans le futur. Voilà, alors, on en est un petit peu là en termes de recherche, et la question qui se pose maintenant, c'est quelles conséquences ça peut avoir, et qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ces conséquences-là. Et là, on rentre dans un domaine de recherche qui est nettement plus difficile et qui pose des problèmes Alors, on peut dire qu'il y a une science du climat, qui est une science de l'alerte, consistant à dire qu'il y a un problème. C'est un problème important par rapport à tout ce qu'on a connu dans le passé, qui est une science, je dirais, largement décidée. C'est-à-dire, on a sinon des preuves, on n'a jamais de preuves dans nos disciplines, mais des faisceaux de présomption, comme on dit, très forts, qui sont allés en s'augmentant au fil des années. On sait que mettre des gaz à effet de serre, ça réchauffe, que ce réchauffement a toutes les chances d'être important par rapport aux effets naturels, et qu'on en commence à en voir les prémices, parce que c'est très difficile d'imaginer que ce qu'on voit correspond à ce qu'on a prévu à l'avance, sous l'effet du hasard. Donc il y a un faisceau d'études qui est trop lourdement convergent. En plus, on voit les effets majeurs dans les régions arctiques actuellement, avec la fonte du Groenland, avec le retrait de la banquise en été, là où on les attend aussi, sous l'effet de tous ces calculs dont je vous ai parlé. Donc là, il y a une science de l'alerte qui est solide. Les conséquences, c'est plus difficile, parce qu'une fois qu'on a donné les grands types de conséquences que je viens de dire, on est confronté à des gens qui voudraient savoir dans le détail ce qui peut se passer chez eux. C'est-à-dire, et la question se pose aussi par rapport à tous les événements extrêmes, à toutes les crises un peu plus fortes qu'on peut voir. Donc cet été, il y en a eu deux exemples de crises importantes. Il y en a eu d'autres d'ailleurs dont on a moins parlé, avec des typhons et des cyclones, mais il y en a deux dont on a beaucoup parlé, c'est ce qui s'est produit en Russie, avec une sécheresse importante, une canicule, des feux de forêt. Bon, le problème des feux de forêt en Russie, c'est un problème qui se pose de manière régulière, qui n'est pas un problème nouveau. Il peut avoir été amplifié d'ailleurs par des facteurs non climatiques. On parlait d'assèchement des tourbières qui permettent au feu de durer longtemps, de se propager. Mais il y a aussi des conditions de température et des conditions climatiques exceptionnelles. En soi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que l'année prochaine, il fera peut-être très froid en Russie. Donc on ne peut pas se servir de ça pour faire des prévisions locales. Néanmoins, ça correspond au type d'événement qu'on peut attendre dans un cadre de réchauffement climatique. Le deuxième exemple qu'on a eu, c'est les changements de mousson. Alors, les changements de mousson sont des choses extrêmement complexes. La mousson indienne dépend, par exemple, des fluctuations de température sur le Pacifique. On a des événements qu'on appelle El Niño ou La Niña, donc les températures sont plus chaudes sur l'ouest ou l'est du Pacifique, et ça change tout le régime de précipitation dans les tropiques. Et dans une année El Niño, il n'y a pas trop de précipitations et de pluie dans les régions de mousson indiennes. Dans l'année La Niña, et alors 2009 était une année El Niño, un peu plus chaude, et 2010 est une année La Niña, et on s'attend à avoir des moussons plus fortes. Là, elles sont réellement extrêmement fortes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est anormal? C'est là aussi impossible de dire ça sur une année. Et il y a un peu plus que ça, c'est que les moussons sont tellement complexes que bon, on a du mal à dire comment elles vont changer. On sait qu'elles ne peuvent pas ne pas changer si le climat change, mais on a du mal à dire comment. C'est un système qui dépend de ce qui se passe sur l'océan Indien, sur le Pacifique, comme je viens de le dire, mais même aussi sur la Méditerranée. L'enneigement de l'Himalaya est suspecté avoir un rôle aussi sur la mousson quelques mois plus tard. C'est un système très complexe. Donc, prévision locale de ce qui peut se produire. Sur ces régions de mousson, on pourrait parler du Sahel, c'est aussi compliqué, c'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à savoir faire. Et on a tout près de chez nous un autre exemple, c'est les tempêtes hivernales qu'on a eues sur les Landes, ou le département des Landes, ou le massif forestier des Landes plus largement. C'est des choses qu'on a du mal à relier à un réchauffement climatique. Donc on voit des tas d'événements locaux qui, eux, sont difficiles à interpréter. Et ce domaine de la prévision locale, c'est quelque chose qui est difficile. Alors, je vais insister là-dessus parce que c'est quelque chose souvent mal compris. On sait, avec toujours des petites réserves, mais enfin on sait quand même de manière forte que si on met les gaz à effet de serre, le climat va changer. On sait que ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences à échelle locale. Il y a un certain nombre de conséquences régionales qu'on est capable quand même d'esquisser. Par exemple, les grands cyclones tropicaux, ben on s'attend à ce qu'ils soient plus intenses dans certaines régions du globe, qu'ils soient plus intenses. Le bassin méditerranéen, ben, toutes les indications montrent qu'il devrait s'assécher, tout le pourtour du bassin méditerranéen. Et puis il y a des tas de choses qu'on a du mal à dire. Ça relève du risque, du risque au sens, on sait qu'il va se produire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et ça, c'est la difficulté majeure dans laquelle on se situe par rapport à tous ces problèmes climatiques. C'est, en fait, changer le climat, perturber le climat, c'est créer des inconnus, créer des situations que, par essence, on aura du mal à prévoir. Alors, pour les scientifiques, ça demande avant tout un effort de recherche. Il y a deux raisons pour lesquelles on n'est pas sûr de, enfin, on ne peut pas prévoir pour le moment. C'est que, d'une part, on est très loin d'être arrivé au bout de ce qu'on peut faire en termes de recherche. Toutes nos prévisions dépendent d'ordinateurs, mais ces ordinateurs, ben, ils sont en phase de croissance en termes de capacité de calcul, en termes de contenu physique. On est passé de modèles qui étaient des modèles de l'atmosphère, des modèles où on coupe l'atmosphère et l'océan. Les équipes qui construisent ces modèles, c'était 3-4 personnes au début. Maintenant, c'est 50 personnes travaillant pendant 10 ans. Donc, tout ce travail consistant à développer le diagnostic scientifique progresse. La capacité des ordinateurs, depuis que moi je travaille, s'est multipliée par 1000 milliards à peu près. Donc, c'est des choses qui sont colossales. Donc ce qu'on peut faire maintenant et ce qu'on pouvait faire il y a 25 ans n'a rien à voir. Pour autant, on ne sait pas jusqu'où peut aller. Tout n'est certainement pas prévisible dans des systèmes naturels. On sait bien que pour la météo, par exemple, au bout de 5 ou 10 jours, on s'arrête, on ne sait plus prévoir. Pour le système climatique, c'est moins un problème d'échelle de temps, puisqu'on a dit qu'on faisait des prévisions statistiques, que de savoir si on peut avoir un accord sur la manière dont la mousson se modifiera, la manière dont El Niño se modifiera, la manière dont les microclimats régionaux dont on dépense se modifiera. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas bien ce qu'on pourra imaginer prévoir dans 10 ans, ou pas. Ben, il faut attendre d'avoir fait la recherche, il faut attendre d'avoir progressé. Et donc, on est face à cette incertitude clé. C'est-à-dire, on est capable d'alerter sur des risques. Et donc, cette alerte, elle nous indique une chose. Elle nous indique qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais par contre, on sait, je vais y revenir, qu'on n'empêchera pas un certain niveau de changement climatique. Et là, ça demande de s'adapter préventivement à ce qui peut se passer, et on a beaucoup plus de mal à le faire. Donc ça, c'est l'état de la recherche. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Donc c'est un petit peu moins mon travail de scientifique, mais c'est des questions qui nous sont posées, auxquelles on doit répondre, et de notre mieux, avec nos compétences de scientifique. Alors, la première des choses, c'est effectivement que si on ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre, on se prépare à un futur très différent. C'est-à-dire que si on laisse ces gaz se stocker dans l'atmosphère, au rythme où ils se stockent actuellement, on va avoir un changement climatique qui va être important. Il y a eu des scénarios qui ont été établis. Alors, une grande partie de l'expertise dans notre domaine, je n'ai pas encore parlé de ça, est due à un organisme qu'on appelle le GIEC. Alors, le GIEC, c'est le groupe d'experts groupe international, intergouvernemental d'experts pour l'étude du climat. Donc c'est une émanation des Nations Unies. C'est pas un groupe qui fait du travail scientifique, c'est un groupe qui, sous l'égide des États-Unis, des Nations Unies, fait une évaluation de la recherche pour essayer d'établir les points de consensus dans cette recherche, les points au contraire sur lesquels les gens ne sont pas d'accord, établir un diagnostic. Ce diagnostic, il est relu plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a un noyau d'auteurs qui l'écrivent, ce rapport, et il est relu au moins deux fois, trois fois même actuellement, par d'autres scientifiques, donc des amis d'abord, tous ceux qui veulent ensuite, et puis des experts nommés par les gouvernements, enfin. Et donc, il doit être réécrit en fonction des critiques qui sont faites dans chacune de ces trois itérations. Et au bout du compte, ça donne le rapport lui-même, c'est 3000 pages à peu près. Il y a des résumés qui sont extraits de ça. Et ces résumés sont validés. Bon, c'est vraiment extrait de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre dans le résumé quelque chose qui n'est pas dans le rapport. Et les rapports eux-mêmes sont relus et sont ensuite validés dans un mode Nations Unies, qui est un mode de consensus. Alors consensus, souvent c'est mal interprété, on croit que c'est la démocratie, que les gens votent et qu'on prend l'avis majoritaire, c'est pas du tout ça. Consensus, c'est consensus, c'est-à-dire si les experts chinois veulent pas qu'il y ait telle phrase, il n'y a pas telle phrase. Donc le document final, produit par le GIEC, c'est un document qui a été accepté par les experts de tous les gouvernements. Donc c'est un document qui est en fait un document faible par rapport à la science qu'on... Puisque, en gros, tout ce qui ne fait pas consensus en est enlevé. Donc le GIEC a essayé d'établir des projections un petit peu plus... Enfin, de cadrer un petit peu les exercices de projection pour le futur. Et donc, dans tout ce travail-là, on a retenu un certain nombre de chiffres qui sont intéressants. Premier, c'est que si on veut réduire vraiment les émissions de gaz à effet de serre, si on veut vraiment stabiliser le climat, pardon, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, en gros de moitié par rapport à actuellement. Un petit peu plus maintenant, parce que depuis le temps qu'on le répète et qu'elles ont augmenté, c'est un peu au-delà de la moitié qu'il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si on laisse les émissions au niveau actuel ou au niveau de 90, on aura un réchauffement de la planète qui sera probablement de l'ordre de 2 à 3 degrés en fin de siècle, c'est-à-dire... Voilà, avec une incertitude de plus ou moins 1 degré, parce que les modèles ne sont pas certains. Et c'est quelque chose qui nous met au-delà d'un seuil qui a été établi comme un seuil de danger, j'y reviendrai ensuite, par différentes études. Donc on est dans un domaine qui est insuffisant a priori. Si on laisse les émissions continuer au rythme actuel, on aura un réchauffement de la planète qui sera plutôt de 6 degrés, alors en fin de siècle. 6 degrés, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Comme je l'ai dit, entre l'âge glaciaire et l'âge actuel, c'est 5 degrés de réchauffement. 6 degrés, c'est vers le chaud, quelque chose d'équivalent. Et ça veut dire un impact très très fort dans les régions arctiques, et puis aussi une modification des grands cycles hydrologiques dans les tropiques qui peut être très important. Donc, là, il y a deux grands chiffres qui ont retenu cristallisé le message scientifique, c'est-à-dire ne dépassons pas 2 degrés. Alors, je vais revenir sur les études qui justifient ça, et puis essayons de réduire les émissions de moitié, mais il faut les réduire vite. Alors, pourquoi il faut les réduire vite ? Il faut les réduire vite justement à cause de ce seuil de 2 degrés. Alors comment c'est venu ? Moi j'ai dit que tout à l'heure on ne savait pas bien prévoir les conséquences locales. Il y a malgré tout beaucoup d'études qu'on peut faire, on appelle des études de vulnérabilité. Donc on ne sait pas bien comment le climat va changer dans telle ou telle région, mais on peut dire, ben voilà, moi je suis dans les Landes, j'ai un écosystème, il y a des pins, il y a des activités économiques qui sont liées à ça, des écosystèmes biologiques qui sont liés à ça. Quel est le niveau de changement de température, de précipitation qui va affecter mon écosystème, qui va affecter ces études de vulnérabilité se sont multipliées depuis quelques années. Donc, on a du mal à faire la prévision descendante, consistant à partir du gaz à effet de serre jusqu'à l'échelle locale, mais on commence, parce qu'il y a beaucoup d'autres disciplines qui ne sont pas les miennes, des écologues, des hydrologues, qui ont commencé à faire ce travail, savoir qu'est-ce qui est important par rapport au terrain local. Et conclusion de beaucoup d'études, c'est qu'à partir de 2-3 degrés de réchauffement, d'ordre de grandeur du réchauffement, on commence à changer de type d'impact. On commence à avoir des effets qui sont plus importants, moins maîtrisables. Et donc, c'est ça qui fait que l'Union européenne, en fait, et là c'est une décision qui n'est plus une décision scientifique, qui est une décision politique, a dit à 2 degrés, on coupe. Il faudrait qu'on ne dépasse pas 2 degrés. Alors une fois qu'on a dit ça, et alors ça a été repris de manière sur un texte qui n'est pas validé, mais qui a été dans l'instant approuvé au moins oralement par tout le monde, à Copenhague. Donc ces 2 degrés, c'est une référence qui est utile. Si on ne fait rien, elle est atteinte en 2050. Maintenant, il se pose un problème, c'est que si on fait quelque chose, il y a un délai pour que cette action soit prise en compte par le système climatique. Je dis tout à l'heure, si on met des gaz à effet de serre, c'est comme si on chauffe sous la casserole. Maintenant, on arrête de chauffer la casserole, il faut quand même un peu de temps pour qu'elle se refroidisse. Et puis, on injecte des gaz à effet de serre qui se stockent longtemps dans l'atmosphère, mais on arrête de les injecter, ceux qui sont là sont là. Donc, ça donne un temps de retour en arrière, si vous voulez. C'est comme un gros paquebot, on met les machines vers l'arrière, il faut quand même un certain temps pour qu'ils ralentissent. Et ce temps-là, on l'établit à quelques décennies. Donc, on est en 2010, le seuil qu'on ne veut pas dépasser se présente en 2050... On doit freiner pas trop tard. Donc, le sentiment d'urgence vient là. C'est souvent mal compris. Souvent, on pense que l'urgence, c'est que si on fait rien, demain, ça sera la catastrophe. En fait, non. On est en train d'enclencher des mécanismes à plus long terme. Et c'est ça qui impose de prendre des mesures de manière relativement rapide. Cet effet différé dans le temps, donc, est absolument essentiel par rapport à la manière de concevoir les choses. Voilà, alors, tout ça, ça relève aussi, et je pense que c'est très important, d'une interface entre le discours scientifique et la décision politique, qui est une interface complexe. Et je crois que c'est ce qui a été beaucoup sous-estimé au début, et qui a... poser beaucoup de problèmes, fait un petit peu le lit du climato-scepticisme, c'est cette appréhension des problèmes au début comme étant finalement assez simple, alors qu'en fait ils sont beaucoup plus complexes que cela. Et je vais essayer de le dire en quelques mots. Moi je suis climatologue, donc on m'interroge en tant que climatologue sur qu'est-ce qu'il faut faire pour la planète, ma réponse, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, si on n'a pas suffisamment réussi à les réduire, et on sait que, je le dis, y a une part du changement climatique qui est inévitable, il faut s'adapter. Et s'adapter, c'est surtout pour les pays les plus vulnérables, à ce qui peut se produire malgré tout, hein, en dépit de ce qu'on aura fait. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, comment on le fait. Et donc là, c'est plus mon domaine, mais c'est un état de fait. Il n'y a aucune solution miracle. Les émissions de charbon, de gaz naturel, de pétrole, c'est la presque totalité avec la déforestation des émissions de CO2, qui est le premier des gaz à effet de serre, un de ceux qui durent en masse, un de ceux qui durent le plus longtemps dans l'atmosphère aussi. Donc ça, c'est la première des choses qu'on veut réduire. C'est une grosse partie de l'économie mondiale, c'est toute l'énergie de l'économie mondiale, 80% à peu près, qui repose là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut substituer aux combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel ? Il y a un certain nombre d'énergies renouvelables. La première, c'est le bois, qui est quand même beaucoup utilisé dans beaucoup de régions du monde. Il y a aussi l'hydroélectricité, mais on a vu que les très grands barrages, ça pose des problèmes, aux Trois-Gorges, par exemple. Il y a des énergies auxquelles on commence à penser tardivement, donc le soleil, qui n'est pas une énergie renouvelable, mais qui est une énergie pratiquement inépuisable pour nous, le vent, même chose. Donc toutes ces énergies nouvelles sont à un niveau, pour le moment, de développement qui est très très faible. Donc dans les prochaines décennies, il faut faire le maximum, mais ça suffira probablement pas. Après, il y a tout ce qui est lié au nucléaire. Le nucléaire, là aussi, n'est pas une énergie renouvelable. On peut arriver à, surtout s'il n'y a pas de processus de surgénération, à épuiser rapidement les réserves en uranium. Donc on sait que le nucléaire, par ailleurs, pose des problèmes de sécurité. On voit qu'on n'est pas... Il n'y a pas une joie considérable de la communauté internationale quand les Iraniens décident d'utiliser l'énergie nucléaire. Donc, on a des solutions qui, une par une, posent des problèmes. Et par exemple, un problème qui illustre bien ça, c'est celui des biotechnologies dont je n'ai pas encore parlé, qui consistent à des biocarburants, à dire on va se donner, voilà, c'est 20% dans les objectifs de Bruxelles, de carburant autre en utilisant de l'éthanol à partir des betteraves ou des combustibles plus diesel à partir d'autres. Et il y a plusieurs générations, plusieurs techniques, mais on s'est rendu compte que ça a des limites qu'il faut explorer de manière soigneuse, parce que développer massivement des biocarburants, mais c'est un problème en termes de biodiversité, on favorise des monocultures très larges, c'est un problème en termes d'alimentation pour la planète, c'est-à-dire qu'on peut réduire les zones consacrées aux cultures vivrières, et en particulier il y a déjà dans certaines régions du monde des zones où il y a de la malnutrition et où c'est plus rentable de produire des combustibles, des biocarburants que de l'alimentation. Donc on voit que tous ces problèmes sont imbriqués les uns avec les autres de manière assez complexe, et ils font appel à des compétences qui sont elles aussi assez diverses. Il y a la compétence du climatologue, qui est la mienne, il y a la compétence des gens qui travaillent sur la biodiversité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, la biodiversité, il y a la compétence des hydrologues, des gens spécialistes d'alimentation, de démographie. Donc je pense que le point le plus important à réaliser, c'est qu'on est dans une étape où il faut, d'une certaine manière, prendre des mesures rapides, fortes, il faut aussi qu'elles soient réfléchies. Et je crois que ce qui manque le plus actuellement, c'est peut-être des cercles de réflexion où on met en place, où on croise, alors le Grenelle de l'environnement a voulu être ça, mais c'est des Grenelles pérennes qu'il faudrait, où on croise un peu toutes ces réflexions, puis il faut aussi qu'elles soient contradictoires. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Il y a la science qui a sa méthode, qui a son expertise, qui dit pas tout, mais qui sait à peu près ce qu'elle sait et ne sait pas. Et puis ensuite, tous ces problèmes dont je parle, c'est des problèmes de valeur aussi. C'est des problèmes de savoir qu'est-ce qu'on privilégie, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Et c'est nécessairement des lieux de débat dont on a besoin. On n'a pas besoin d'unanimisme par rapport à ces problèmes-là. Donc je crois qu'il faut beaucoup distinguer les débats scientifiques de tous ces débats qui s'organisent avec l'expertise scientifique, mais qui sont nécessairement contradictoires. Et ça, c'est un des problèmes auxquels on a été confrontés ces dernières années, c'est-à-dire que le message très simpliste qui est celui que véhiculent les médias n'est pas du tout à la hauteur des enjeux et n'aide pas, en fait, à construire une image de ces problèmes qui soit suffisante. Et de ce point de vue-là, c'est pas propre aux problèmes climatiques. On le voit sur tous les problèmes science-société, on est un peu confronté à ça. Mais là, c'est peut-être plus criant, parce que ça a été aussi plus médiatisé que dans d'autres domaines. Voilà, donc je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Je crois qu'il y a quelques points que j'ai voulu essayer de mettre en avant. D'abord, le fait que tout le diagnostic scientifique repose sur une connaissance qui est une connaissance qui s'est développée sur plusieurs décennies, qui est ancienne, qu'elle est très consciente d'un certain niveau d'incertitude dans ces diagnostics, c'est que, en dépit de cette incertitude, en dépit de ces qu'elle a alerté, et qu'on a pu, à travers ces conclusions de la communauté scientifique, bon, il y a eu le sommet de la Terre à Rio, le protocole de Kyoto, Copenhague, peut-être d'autres, et que la communauté scientifique, de ce point de vue-là, a pris ses responsabilités, ce qu'elle estimait de ses responsabilités. Mais ça ne résume pas les débats. Il doit y avoir un autre espace de débat qui va au-delà et qui, lui, est d'ordre citoyen. Et je pense qu'il y a besoin d'être très clair sur ce qu'on appelle expertise scientifique dans ces domaines-là, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les dernières années. Alors je vais m'arrêter là.